Est-ce que cette modernisation ne passe pas justement par l'effacement de formes de vie populaires et par la destruction de formes de vie jugées indésirables ?
Ben oui, c'est ça. C'est le prosphéliquat, en fait, c'est un exemple de vie commune qui les gêne, en fait, parce que ça fonctionne, parce qu'il y a, 400 personnes et 8 bâtiments et 27 nationalités et des gens qui vivent ensemble, qui autogèrent le lieu, qui les fait tenir aussi, parce que sinon c'était abandonné par l'État, en fait. Et ça aurait été... il y aurait la chance de... Tous les autres bâtiments qu'ils ont, ils appartiennent à l'État, mais ils ont quand même abandonné. Et du coup, on les voit être détruits petit à petit. C'est sûr que aussi l'excuse qu'ils donnent pour les faire expulser, en fait, c'est une ironie complète. C'est pour faire construire de. D'ailleurs, j'ai lu pour l'histoire, c'était quand c'était fait les années 30, même il y avait un club de foot qui voulait construire son stade là-bas.
Okay.
Et du coup, il y avait une histoire comme ça. Après, il y avait l'histoire de 90, où ils voulaient aussi... L'État a acheté plein de bâtiments pour faire construire d'autres choses, des magasins, des centres commerciaux, etc. C'était pas fait par la résistance des gens là-bas. Et aujourd'hui, c'est la même histoire, mais le prétexte, c'est de faire des genres d'habitation pour les gens de l'hôpital, pour les relatifs des gens de l'hôpital qu'il a à côté. Mais l'ironie, c'est que déjà, prosphyllica, en fait, comme ils ont vu que les gens dormaient dans leurs voitures, etc., ils l'ont déjà prévu et l'ont proposé des logements, en fait. Et du coup, c'est géré, parce que, ben, on va en parler peut-être plus tard, mais prosphyllica, c'est aussi un... C'est pas juste qu'on squatte là-bas fermé, etc. Ça vit avec la ville et ça aide autour les gens de plusieurs manières. Et donc, ils aident aussi avec le manière que l'État a dit qu'il veut expulser pour construire des logements. Mais ça se passe déjà, en fait. Du coup, c'est l'architecture de Bauhaus. C'est une architecture un peu spécifique pour pouvoir aussi loger plein de gens dans un petit espace, et c'est un peu ça aussi. C'est les luttes des années 90, puis cette résistance, ça fait que c'était caractérisé comme monument historique, en fait. Et c'est un peu aussi un argument c'est un argument des gens de la lutte qu'on ne peut pas toucher dans ce monument. C'est purement abandonné par l'État, en fait. Et ça aurait été dans un état pas du tout correct s'il n'y avait pas les gens qui s'organisaient pour. Parce qu'il y a plein des architectes, de mécaniques, de gens qui travaillent la construction. En autogestion, ils prennent soin des bâtiments. Et qu'ils disent que ça se voit un peu crade à l'extérieur, mais en vrai, à l'intérieur, c'est très bien. Et c'est sûr que tous ces mouvements-là, ça s'est fait pour aussi avoir les ressources. Je veux dire, le mouvement de solidarité pour Prosphyllica, c'est fait aussi pour que les gens trouvent un peu de ressources et continuer les rénovations à l'extérieur.
Derrière le discours de reconstruction, c'est surtout une stratégie de nettoyage social, voire de mise au pas. Ce qui se construit à Prosphyllica, c'est une alternative durable au modèle dominant. Que tu ne penses pas que cette forme de résistance située, fragile, et qui existe aussi malgré elle, ce n'est pas une forme de gestion collective de la misère produite par le système. S'il y avait une proximité malgré tout avec les milieux anarchistes grecs, ou des modèles politiques historiques de référence.
Tout à fait, oui. C'est notamment avec les mouvements politiques qui s'étaient faits en 2008 avec l'assassinat d'Alexis Grigoropoulos par la police. Ce jeune de 16 ans qui était assassiné au quartier d'Exarchia par la police. Et ça a créé un mouvement très fort à l'époque. Et un mouvement social que lui, en 2010, a donné la naissance de l'Assemblée Générale du quartier de Prosphyllica, qui est une organisation faite dans une démarche anti-hiérarchie, anti-libéralisme, anti-capitalisme, anti-fascisme, anti-patriarcat, solidarité internationale et communalisme. Et c'est beaucoup inspiré par l'organisation des Rojava, en fait, les Kurdes. Parce qu'il y a aussi un lien, il y a un lien fort entre les luttes politiques kurdes et turques et les luttes grecques. En fait, il y avait toujours des solidarités entre les peuples. malgré le fait que la propagande de 100 ans suivait toujours que le peuple ne sont pas, sont pas amis, mais en vrai, non. Ce n'est pas du tout vrai. Et on était toujours en solidarité avec, avec les mouvements de résistance kurde, turque, où là, bien sûr, la politique de l'État, là, c'est vraiment sévère. Les gens, il y a beaucoup de gens qui sont torturés, aux gens en grève de faim et qu'il meurt au final. Voilà, du coup, cette organisation des communes, elle était très inspirée par Rojava notamment.
J'ai l'impression aussi que la situation de la Grèce géographique, à la croisée de plein d'influences religieuses, géographiques, géopolitiques, ça influe aussi sur les mouvements politiques, les courants sociaux internes quoi, qui vont traverser les luttes grecques. C'est quoi l'identité grecque ? Est-ce que tu pourrais, toi, résumer l'identité grecque en fait ?
C'est vrai que la Grèce, par sa position géographique, c'est un carrefour en fait. Et c'est pour ça que c'est difficile. Et pour moi, c'est pas vraiment nécessaire non plus de les nommer comme Europe ou Asie ou Balkans, etc. C'est tout à la fois en fait. Même la Crète, elle est pas très loin de l'Afrique. Donc, et c'est pour ça, je crois déjà historiquement qu'il y avait cette importance, ce lieu-là. Et pour moi, l'identité grecque, c'est la langue, la civilisation, l'histoire, tous les œuvres, etc., et les lieux. Mais rien d'autre. Genre, c'est pas la religion, c'est pas parce que la propagande grecque en fait depuis toujours, il lit des choses qu'ils ont pas liées à la religion orthodoxe chrétienne, qui est important bien sûr pour la région, mais comme tu as dit, il y avait plein de religions, la région, et l'hellénisme, c'était pas que pour les chrétiens, pas du tout. L'hellénisme, c'est une culture, et lui qui parle grec, en fait, c'est un grec. On peut dire aussi, lui qui connaît la langue et la culture grecque, il peut être considéré comme un grec, en fait. Et bon, déjà, il y avait plein de peuples différents qui ont été mêlés à la région, et au final, voilà, pour moi, c'est ça qui compte. Après, pour les mouvements de lutte, c'est plus la résistance à cette propagande que j'ai parlé. Parce que la propagande, depuis la création de l'État des Grecs, qui du coup, comme on a dit, en fait, ça date de quelques années. C'est pas du tout, c'est très récent. En vrai, d'un côté, si on pense l'histoire du monde, c'est très récent. Et cette propagande, elle est très fermée. Elle enferme. Déjà aussi, ils veulent qu'on considère la Grèce comme un État européen, quand historiquement, il n'y avait pas du tout la même histoire que les autres États européens, ok, mais bien sûr, après, ça donnait les Grecs anciens, etc., la Renaissance, il y a ces liens qui étaient faits par les Arabes aussi, mais on n'en parle jamais, mais en vrai, c'est les Arabes qui ont amené les textes grecs en Espagne, qui depuis s'étaient diffusés en Europe. Mais dans tous les cas, voilà, on parle d'une identité, mais c'est la propagande, elle est très fermée. Ils disent que les Grecs, qu'ils ont des chrétiens, mais en vrai, c'est pour ça que cette mouvement de résistance, ça nous tient à cœur, parce que ça remet en place un peu la relation avec les autres peuples voisins, qu'il y avait toujours des allers-retours et pas... Par les commerces, par les voyages, il y avait toujours même l'alphabet grec est basé dans l'alphabet phénicien, qui du coup c'était transporté par les commerces, etc. Il faut penser toujours. Moi, je suis dans tous les cas, je crois pas aux États, dans tous les cas, je crois pas aux frontières, donc je crois à la géographie. Les gens, ils tournent autour d'eux pour trouver les ressources, pour s'aider, pour communiquer, jusque pour vivre. On est autour de la région où on vit. Donc la Grèce, bien sûr, comme tu as dit, c'est beaucoup des éléments. Et ce n'est pas la même au nord de la Grèce. Là où je viens, moi, c'est vraiment... On est à côté des Balkans. La Bulgarie, c'est à 2 heures. On est même... Mais en Crète ou dans les îles au sud, c'est pas exactement la même. Ou les îles à côté d'Asie mineure aussi, chaque région aussi, ses caractéristiques, ses particularités.
J'imagine qu'en tant que musicien, cette complexité doit aussi t'inspirer.
Nakos, c'est un diminutif de Yannis, tout simplement.
Ah, d'accord.
Yannis, Yannakos, Nakos. C'est dans le langage du village que les gens, des fois, ils coupent les noms. Et donc, justement, ce projet, c'est mon projet personnel, c'est mes compos. Et c'est un peu l'idée du voyage de quelqu'un qui vient d'un village paumé dans les montagnes de Grèce et qui voyage en Turquie et partout dans des régions à côté pour raconter des histoires. L'idée, c'était de tirer, parce que dans tous les cas, c'est un peu dans mon parcours, c'était un peu comme ça, j'étudiais la musique classique, et puis je me suis intéressé dans des musiques un peu pop-rock, et puis à mon arrivée à Istanbul, je me suis mis à étudier la musique traditionnelle grecque, turque, classique ottoman, balkanique générale. Et donc, et ici, en venant en France, je fais des études de jazz, parce que je voulais justement faire un mélange un peu de tout ça, de toutes mes influences. Et j'ai trouvé donc qu'avec la guitare électrique sans fret, la guitare électrique normale, c'est un bon moyen de donner cette ère moderne. Et donc, je fais appel à un ami batteur, Loïc Schild, et Yael Misiabel à la basse pour former un trio. Ce morceau s'appelle Nostos. Et du coup, ça, c'est la nostalgie pour la maison, pour ce soir, en fait. Et après, les paroles ne parlent pas forcément exactement. Ce n'est pas la nostalgie comme on le pense d'un pays ou d'une maison ou de quelqu'un. C'est plus, ça parle d'une aube, c'est un peu allégorique. Ça parle de l'aube et comment les fleurs, ils commencent à réagir aux premiers rayons de soleil qui finalement vient réchauffer la terre qui est déserte par le froid. Et voilà.
Et l'aube, c'est aussi une référence à Victor Hugo. Donc.
Oui, tout à fait.
Thank you.
Litvinenka, c'est un quartier squatté de plus de 400 personnes, réparti en 8 bâtiments, une 22 structures autonomes d'utilité collective pour les habitants et habitantes de la communauté ainsi que pour les quartiers voisins. Alors il y a une crèche autogérée, il y a une structure de santé, une pharmacie sociale, le lieu d'hébergement pour les patients patientes de l'hôpital de cancérologie adjacent et leurs accompagnants, accompagnantes. Il y a une boulangerie collective. Je voulais savoir, moi, concrètement, le rapport avec les habitants, habitantes d'Athènes, en fait. C'est-à-dire, est-ce que Prosfiika fonctionne comme un endroit fermé, presque en ghetto, ou alors est-ce qu'il y a, au contraire, beaucoup d'échanges, de circulation avec le reste de la ville ?
C'est pas fermé, c'est pas vraiment un ghetto. Déjà, oui, les ghettos, c'est pas, il y a une unification. Là, on parle vraiment de, comme on a dit, de 27 nationalités différentes, de religions différentes, de plein de gens, des profils vraiment différents. Il y a une assemblée générale tous les lundis où les gens vraiment prennent le temps de présenter leurs problématiques, de parler, de changer, etc. Et il y a une procédure d'intégration pour quelqu'un qui vient de l'extérieur. Mais comme je dis aussi avant, cette organisation de la commune là-bas, ça permet en fait, et c'est aussi, ben c'est un peu organique, mais la boulangerie qu'il a par exemple, n'importe qui peut aller acheter ou prendre, ils aident les gens autour, ou comme on a dit aussi pour les patients de l'hôpital et leurs proches qui les aident aussi, avec qui l'hébergent. Et oui, cette organisation en autogestion, en fait, ça s'est fait aussi par la nécessité, parce que quand il y a tant de personnes, la première, c'était la boulangerie, qui du coup, oui, elle était faite, elle était nommée Berkin Elvan pour commémorer cette résistance turque, il était mort. Et donc, oui, la boulangerie, c'était une des premières choses qui s'était fait, parce que c'est la nourriture. Après, il y avait la crèche. Et parce qu'il y avait il y a plein d'enfants, et aussi cette crèche, c'est un peu, ça aide aussi à se former à une pédagogie, et c'est pas que voilà, et aussi pour le pareil pour les refuges des femmes, et c'est pareil, ça aide à accueillir, mais aussi à former, à informer et à former les gens pour la situation. Et du coup, c'est pas du tout fermé, et même c'est ça aussi qu'il faut dire, oui, parce que de l'extérieur, de loin, quand on passe, peut-être que ça donne cette idée-là, ou dans tous les cas, c'est sûr, je suis sûr que les gens, parce que je connais les quartiers, moi j'ai un ami qui habite pas très loin et j'y vais, et c'est sûr que si on connaît pas l'histoire et on s'intéresse pas à l'apprendre, on peut avoir une mauvaise impression. Mais voilà, c'est qui ça, il y a plein de personnes en difficulté, il y a plein de patients, il y a des enfants, il y a des gens qui ont des maladies sévères, et donc c'est sûr que Non, une expulsion, ça aurait mis tous ces gens-là dans la rue, en vrai. Et donc, il y aura plein de décès, ça va être catastrophique, une crise humanitaire, ouais. au centre d'Athènes, en plus.
La communauté ainsi que des dizaines de groupes de solidarité ont défilé dans les rues d'Athènes pour sensibiliser le public à leur quartier et à la grève de la faim en cours d'Aristotelis Andis, un habitant du quartier. La marche était pacifique mais puissante, avec des milliers de personnes manifestant leur soutien. Prosfiika se trouve à proximité de Gada, le siège de la police d'Hellénie. En face de cet important complexe de police se trouve un groupe historique d'immeubles d'habitation construit dans les années 1930 pour héberger les réfugiés suite à la catastrophe d'Asie mineure. Cependant, au fil du temps, nombre de ces appartements ont été abandonnés par l'État. Aujourd'hui, certaines parties du complexe sont occupées par des réfugiés, des migrants, des militants et des familles qui ont reconstruit l'espace en une communauté auto-organisée. Plus de 400 personnes y vivent actuellement. Ensemble, ils ont créé une structure de solidarité allant des cuisines collectives, du soutien aux soins de santé et des initiatives éducatives qui soutiennent depuis longtemps les résidents locaux et la communauté locale. Cependant, la communauté a été confrontée à plusieurs reprises à l'État.
Cette communauté, elle est composée donc de Grecs précaires aussi, souvent touchés par la crise économique, des migrants, réfugiés, qui proviennent de différentes régions du Moyen-Orient, Balkans, Afrique, des militants anarchiste, antifasciste, solidaire, à travers son accueil des migrants, migrantes, par une organisation collective des besoins, logement, santé, alimentation. En fait, c'est aussi une critique directe des politiques migratoires classiques, notamment de l'État grec, qui sont jugées trop contrôlantes, déshumanisantes. Comment faire comprendre que c'est un lieu vital, en fait ?
La situation, l'accueil des réfugiés en Grèce, c'est vraiment inhumaine, comme tu as dit, en fait. Il y a très peu de centres où les conditions où les gens vivent sont vraiment correctes, en fait. Les restes, c'est... Il y a plein à Mytilini, il y a des îles à côté d'Asie Mineure, Mytilini, Chios, qui prend vraiment cher. Il y a aussi, au nord, près de ma ville natale, à Kavala, à Alexandroupol, il y a plein de camps. J'ai des amis aussi qui travaillent dans ces camps-là, qui, du coup, ils me font partie de leur réalité, qui c'est vraiment... C'est complètement triste de voir des gens, d'ailleurs, qui veut se sauver d'une guerre ou d'un régime autoritaire, qui arrive en Grèce juste pour passer ailleurs. Parce que les gens, en vrai, ils ne veulent pas rester. Mais du coup, qu'ils se retrouvent là-bas, en vrai, emprisonnés. De nouveau, et sans avoir la possibilité de rien faire. Et c'est juste que c'est aussi la politique de l'Union européenne qui donne des ressources en Grèce. Il donne de l'argent pour que ça devienne une prison de réfugiés. Donc c'est, bien sûr, après tous ces réfugiés aussi, ils ont là par les choix politiques mondiales aussi. La responsabilité de l'État grec, elle est là, mais c'est pas la seule. Mais bien sûr, ils sont responsables de leurs actions d'expulsion des gens qui tuent dans la mer. Il y a plein de fonds européens. Et donc, normalement, ils devraient avoir des infrastructures un peu plus humaines pour ces gens-là. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec leur budget, mais dans tous les cas, ils ne les mettent pas dans cette cause-là. Et c'est là où les quartiers des Prosfyika, en fait, ça joue un rôle vital et c'est par l'autogestion dans une petite échelle, en fait, qui c'est, comme on disait avant, sans les États, on ferait comme ça, en fait. Dans les petites communes, dans les quartiers, on pouvait s'organiser et faire en sorte qu'il n'y a pas des gens qui meurent dans la rue, et qu'il n'y a pas des enfants qui sont dans la rue, etc. Et c'est pareil pour les quartiers d'Exar, qui est aussi, c'est un peu pareil.
Tensions in Prosfyika remain high. The Greek state and the region of
L'État grec et la région d'Attica ont annoncé leur intention de réaménager la zone et de supprimer la résidence actuelle. Les autorités ont décrit le projet comme une rénovation urbaine et de nouveaux logements sociaux, mais les habitants et les sympathisants ont fait valoir que cela ne ferait que démontrer une structure de solidarité et une communauté déjà existante et ne ferait que déplacer des personnes, laissant beaucoup d'entre elles vulnérables au sans-abrisme. Plus de 400 habitants pourraient perdre leur toit. En réponse à cela, Aristote Hans, un habitant de Prisica, a entamé une grève de la faim. Il approche maintenant du 40e jour de sa grève de la faim, les médecins prévenant que son état de santé est très critique. Pour beaucoup, la lutte pour Prosfyika ne se limite pas au logement. Prosfyika est une autre façon de partager une communauté et de vivre ensemble. C'est une façon d'approcher les résidents locaux, les réfugiés et les migrants pour qu'ils vivent ensemble, construisent une communauté et partagent une vie alternative au mode de vie actuel, où les inégalités sociales et les déplacements restent à un niveau record. La question est de savoir si des espaces comme celui-ci peuvent continuer d'exister aujourd'hui.
And will the fight for it, for the people at Prosfyika and the supporters succeed? Only time will tell.
Prosfygas, c'est les réfugiés. Du coup, Prosfika, c'est le maison de réfugiés, on peut dire.
Donc, c'est ancré même dans l'histoire de ce lieu, d'être une terre un peu d'asile, d'accueil.
Oui, oui, bien sûr. Après, il faut dire que les réfugiés, à l'époque, après l'essence des populations qui était faite, en fait, à la fin de Première Guerre mondiale, et après l'accord de Lausanne, et entre la Grèce et la Turquie, qui venaient de se former, ces deux États qui venaient de se former, c'était une essence des populations complètement absurde aussi, parce que c'était fait sur la base des religions. Et donc, on a 1 600 000 personnes chrétiens, orthodoxes, qui viennent de l'Asie mineure et de Pontus et de toutes les régions de la Turquie, et de 600 000 musulmans qui vont de la Grèce en Turquie. On a du coup cette essence des populations énorme. Les gens qui arrivent en Grèce, ils ont très mal vu. Ils ont vu comme des Turcs, dans tous les cas, ils n'ont pas du tout accepté par la société. Ils vivent dans des camps. Comme aujourd'hui, les réfugiés vivent dans des mauvaises conditions, mais à l'époque, je ne crois pas qu'il y avait même... c'était des camps autogérés, qui des fois, ils ont été brûlés aussi par les Grecs. Ça, il faut le dire. Et c'est ironique aussi le fait que les grands-enfants de ces gens, qui les réfugiés, c'est aujourd'hui des gens d'extrême droite qui ne veulent pas les réfugiés de pays qui viennent aujourd'hui. 100 ans après, les descendants de ces gens-là, ils ne veulent pas les réfugiés qui pouvaient être eux ou leurs grands-parents, ou qui pouvaient être eux, c'est d'ailleurs s'il y a de la guerre.
C'est vraiment des dynamiques d'intégration, en fait, de racisme tellement intégré que tu vois dans l'autre ce que tu refuses d'être, en fait. Donc,
Oui, tout à fait. Et du coup, c'est 10 ans après, parce que l'arrivée des réfugiés, c'était le 1923, et les Prosfika, là, c'était construit en 1933. Et c'était une manière de pouvoir loger ces gens-là, parce qu'au final, ils ont été intégrés. Ce n'était pas un accueil non plus bien, et c'était des chrétiens orthodoxes. La plupart parlaient grec, c'est encore plus étrange.